20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est dans le monde intime, subtil, sensuel de la mélodie française que nous nous plongerons ce soir en compagnie de la soprano Sabine de Vielle. Sabine de Vielle qui vient de s'illustrer avec bonheur dans ce répertoire au disque aux côtés d'Alexandre Tarot. Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons Thierry Ilerito du Figaro pour le portrait d'un jeune talent. Cette semaine, Rebecca Tong, la jeune chef indonésienne qui vient de triompher au concours La Maestra. Mais pour commencer, quelques autres nouvelles du monde musical. L'Opéra National de Paris devra se trouver, en plus d'un nouveau directeur musical, un nouveau chef de chœur pour remplacer José Luis Basso, comme le rapporte le site Olyrix. Ce dernier vient d'annoncer qu'il suivra Stéphane Lissner au Théâtre San Carlo de Naples, et cela à partir de la saison prochaine. Les mesures sanitaires dans les salles de concert peuvent susciter quelques remous. C'est ainsi que le Théâtre Royal de Madrid a été contraint dimanche d'annuler la représentation du Bal masqué de Verdi suite aux protestations des spectateurs dénonçant une absence de distanciation entre eux, ou plutôt une inégalité de traitement entre les différents niveaux de la salle, des sièges vides entre les groupes de spectateurs à l'orchestre, mais aucun espace entre les sièges au balcon supérieur. Philippe Gau vous raconte cela dans son article publié sur le site de Radio Classique. C'est une édition décalée et raccourcie du Festival de l'Orangerie de Sceaux qui se tiendra du 24 septembre au 4 octobre. Jean-François Esser, le directeur du festival, et son équipe ont en effet tout œuvré pour maintenir l'événement malgré les difficultés dues au contexte sanitaire. 6 concerts sont ainsi programmés dans l'Orangerie du domaine de Sceaux. Se succéderont ainsi sur 2 week-ends Michel D'Alberto, le Quatuor Hermès, François Salk avec Vincent Perani, le Quatuor à Rhodes, la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac ou encore Selim Mazari, le pianiste Selim Mazari qui jouera Beethoven jeudi 1er octobre à 20h, des sonates mais aussi le cycle des variations Eroica dont il nous a offert un remarquable enregistrement la saison passée. Thank you. quelques notes des variations Eroica de Beethoven sous les doigts de Selim Mazari. Selim Mazari, l'un des invités des concerts de l'Orangerie de Sceaux, concerts qui se tiendront sur deux week-ends, du 24 septembre au 4 octobre.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Chanson d'amour, ainsi s'intitule le sublime album publié par Erato, qui réunit la soprano Sabine de Vielle et le pianiste Alexandre Tarot autour d'un florilège de mélodies françaises signées Fauré, Ravel, Debussy et Poulenc. Un album qui s'accompagnera de toute une série de concerts, un album que nous évoquons ce soir avec Sabine de Vielle, notre invitée. Elle nous raconte tout d'abord ses liens si forts avec ce genre si intime de la mélodie.
Depuis que j'ai commencé le chant, oui, la mélodie a fait partie de mes partitions, toujours dans mes bagages. Je pense que c'était aussi une façon de faire mes classes. Par exemple, quand j'ai interprété le rôle de l'Acmé, évidemment que la mélodie française m'aidait à placer ma voix avec le texte, à avoir cette accroche dans le médium aigu, à pouvoir projeter ma voix. Oui, c'est sûr que la mélodie française a toujours fait partie de mon apprentissage du chant. Et ce répertoire qu'on a choisi avec Alexandre est constitué en partie de mélodies qui me suivent depuis très longtemps, notamment les forêts.
Alors c'est un genre, la mélodie, très riche, très diversifiée, même comme on peut l'apprécier dans cet album. C'est aussi un genre particulier, une prosodie particulière quand on chante en français. Vous citiez l'Acmé, Sabine de Vielle, vous avez également été Mélisande, vous avez chanté dans le dialogue des Carmélites de Poulenc. Le fait d'aborder ces grands rôles de l'opéra français du 19e et du 20e siècle a enrichi quelque part encore davantage votre rapport à la mélodie.
Ah oui, je peux considérer les choses comme ça. C'est sûr qu'il y a toujours un va-et-vient entre la musique de scène, la musique vouée à être mise en scène, et la musique de concert. On cherche à donner du théâtre de plus en plus dans la mélodie, et on cherche à donner cette qualité presque de chanson, notamment, par exemple, on parlait de Poulenc, le rôle de Sœur Constance, pour moi, c'est un rôle d'une jeune fille qui chante dans la vie et dont la parole est toujours mise en musique. C'est vrai qu'il y a ce va-et-vient, et oui, l'un et l'autre s'apportent énormément.
Choses légères, comme les parfums que le vent prend au ciel de la fougère, pour qu'on les respire en rêvant. Notre amour est chose légère. Notre amour est chose charmante, comme les chansons du matin, où nul regret ne se lamente, où vibre un espoir incertain. Notre amour est chose charmante. Amour est chose sacrée, comme les mystères des bois, où tressaille la mignonnée, où les silences sont les voix. Notre amour est chose sacrée. Notre amour est chose infinie, comme les chemins des couchants, où la mer aux cieux réunis s'endort sous les soleils penchants. Chose éternelle, comme tout ce qu'un dieu vainqueur a touché du feu de son aile, comme tout ce qui vient de cœur, notre amour, notre amour est chose éternelle, et chose
Votre album intitulé Chansons d'amour, Sabine de Vielle, enregistré avec Alexandre Tarot, s'ouvre avec une mélodie pleine de fraîcheur, pleine de tendresse, de forêt. Notre amour est chose légère, notre amour est chose charmante. Une mélodie qui s'apparente au genre de la romance. Et on s'aperçoit à l'écoute de cet album à quel point la mélodie française, de forêt jusqu'à Debussy, Ravel et Poulenc, est un genre qui a énormément évolué, qui est un genre très varié. On peut varier les couleurs, on peut varier la ligne vocale.
Oui, c'est sûr que je vous disais que moi j'avais fait mes classes avec la mélodie, mais je pense que les compositeurs chœurs aussi ont fait leur classe avec ce style. Cet instrumentarium aussi réduit, juste une voix et un piano, a finalement permis aux compositeurs d'expérimenter par le biais de l'harmonie, qui est tellement importante dans la musique française depuis la musique ancienne, ce goût de la modulation qui apporte une petite touche souvent de mélancolie, une demi-teinte qui est très symptomatique du répertoire français. Donc oui, même les romances les plus simples de Fauré ont ce petit truc en plus qui fait qu'elles sont tellement attachantes. Et on entend, je trouve, un personnage tantôt adolescent, tantôt fougueux, ou alors chez Debussy ou chez Poulenc, une certaine mélancolie, voilà, un petit mal-être qui finalement permet au compositeur de travailler sur le côté diaphane de la voix qui exprime la langueur.
Et quand on écoute ces mélodies, on vous écoute autant, Sabine de Vielle, qu'Alexandre Tarot au piano, puisque la mélodie est un genre qui se pratique véritablement à deux. C'est un duo, la mélodie. Finalement, le piano dit tout autant du texte, quasiment, que le chanteur.
Bien sûr, oui. Bah, quelle chance de chanter avec Alexandre Tarot.
Parce qu'il chante, lui aussi.
Ah, c'est un diseur aussi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, on s'est rencontrés pour l'enregistrement et les répétitions, avant tout, de la vocaliste de Rachmaninoff il y a quelques années sur son programme Rachmaninoff. Donc une vocaliste n'a pas de texte, c'est sur un A. Et avec ce parcours harmonique, Rachmaninoff nous suggère des intentions finalement de théâtre, comme s'il y avait un sous-texte que tout le monde pouvait percevoir. Et on s'est amusé avec Alexandre à chercher un sens à chacun de ces virages harmoniques. Et finalement, c'est le même travail que dans ces mélodies. On s'amuse beaucoup, c'est un vrai jeu entre lui et moi sur scène, ouais.
Et ces mélodies, comment les avez-vous choisies avec Alexandre Tarot? Est-ce que vous avez porté autant d'attention au texte, au poète, qu'au compositeur?
Évidemment, oui. Le poème est à la base, et je dirais même le mot. L'attention du compositeur pour le poème passe aussi par la sonorité des syllabes, des mots en eux-mêmes. Donc bien sûr qu'il faut revenir au sens même des mots. Et puis on avait envie vraiment de rendre compte de la merveilleuse diversité qui existe dans cette charnière belle époque entre la fin du 19e et puis le début du 20e, vers le vrai modernisme chez Debussy. On avait envie justement de rendre compte du passage de la mélodie dans le salon bourgeois jusqu'à la salle de concert où les compositeurs vont très très loin dans les évocations chromatiques, quasiment modales. Voilà, c'est un programme qui permet vraiment d'avoir un aperçu de toutes ces couleurs à cette époque.
Il pleut sur la ville. Quelle est cette longueur que peut être mon cœur? Au bruit d'un appel, partirai sur les toits. Thank you.
Vous chantez Verlaine, notamment Sabine de Vielle avec Alexandre Tarot. Verlaine, mise en musique par Debussy. Et quand il pleure dans votre cœur, c'est le titre de l'une des merveilleuses mélodies que vous avez enregistrées. On entend la pluie tomber sous les doigts d'Alexandre Tarot. Vous chantez la mélodie avec Alexandre Tarot. Vous créez des univers, des atmosphères d'une subtilité extraordinaire. C'est un petit peu comme des petites pièces de théâtre, la mélodie, des pièces d'ambiance en tout cas.
Oui, des pièces d'ambiance. Et puis, ce qui est merveilleux à cette période de la musique, c'est que tout est écrit. En fait, il suffit de lire Claude Debussy, de suivre l'harmonie et puis de lire ses annotations pour comprendre l'affect, pour comprendre où est suggéré le théâtre. Par exemple, dans une des romances de Debussy, dans les mélodies de jeunesse qui s'appelle Nuit d'étoiles, qui est une mélodie très simple avec un petit arpège qui pourrait être finalement un jeu presque de guitare ou de luth. Donc la soprano chante son petit texte et elle dit « Je rêve aux amours défunts, je rêve aux amours défunts ». Claude Debussy décide de le répéter deux fois. La première fois, c'est une vraie ouverture quasi tragique. Et puis finalement, il le redit une deuxième fois et on comprend à quel point le narrateur ou la narratrice aime cette douce mélancolie, aime cette tristesse et se complaît dans cette tristesse. Et cette interprétation de Debussy, tout est là, tout est à interpréter simplement en lisant la partition, en lisant le texte, tout est là.
Et ce magnifique album vient de paraître chez Erato. Vous en défendez les couleurs en concert dans le cadre d'une grande tournée, Sabine de Vielle avec Alexandre Tarot. Vous avez donné votre premier concert tout récemment, tous les deux. C'était en Belgique, à Bruxelles. Un moment d'une grande émotion pour vous, pour le public.
Oui, je me doutais que pour moi, ce serait un moment très chargé. Je pense qu'on a tous besoin de musique. Nous, les artistes, on a besoin de retourner sur la scène. Et puis la musique de chambre, c'est une façon merveilleuse de retrouver cette complicité avec nos collègues qui nous a tellement manqué pendant ces mois de silence forcé. Mais je me doutais moins de l'émotion qui serait dans la salle et qui était palpable pour nous depuis la scène. On a eu beaucoup de témoignages, des yeux un peu humides à la fin du concert parce que ben, finalement ça fait du bien. Et puis même masqué, même avec tout ce protocole sanitaire, finalement c'était quand même un très grand moment d'échange. Rien que les moments d'applaudissements étaient des vrais remerciements chargés. Et puis on était vraiment tous conscients de la difficulté de tout ce qu'on avait traversé, de ce qu'on est encore en train de traverser. Et je pense qu'on a tous besoin d'avoir la confiance nécessaire pour retourner au concert, nous sur scène et vous dans la salle.
Beaucoup d'émotions donc en perspective pour les Toulousains le 25 septembre, puisque vous serez à Toulouse avec Alexandre Tarot à cette date. Le 28 septembre, ce sera à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Le 23 novembre à Bordeaux, le 29 novembre à l'Opéra de Lyon. Vous donnerez ces mélodies également en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Vous braverez les quarantaines, si c'est possible, pour aller à l'étranger. Vous avez repris également la scène, les productions lyriques. Je crois que vous avez déjà chanté La Reine de la Nuit, c'est ça,
oui,
à Munich.
J'étais récemment au Bayerische Staatsoper, oui.
Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de redonner une production lyrique? Est-ce que les mises en scène doivent s'adapter aux mesures de distanciation sanitaire?
Bien sûr, ouais, bien sûr. C'était extrêmement rigoureux, mais pour le meilleur. Je vous assure que c'était contraignant pour nous les artistes, mais on l'a tous fait avec envie de pouvoir rendre les choses possibles. Donc on était testés tous les 5 jours. On portait un masque jusqu'à ce qu'on foule le plateau. Donc même dans les coulisses très proches de la scène, on était masqués. On avait chacun une habilleuse et une maquilleuse attitrée, qui ne maquillait personne d'autre. Et puis, une chose encore plus contraignante, c'est que pour le personnage de la Reine de la Nuit que j'interprétais, le Bayerische Staatsoper avait décidé de couper toutes les interactions avec les personnages sur scène. Donc, Tamino gardait la distance, alors que normalement, dans cette mise en scène, j'étais censée lui faire un petit câlin, par exemple. Les trois dames, qui sont censées être mes alliées, gardaient leur distance aussi. Et ma fille, Pamina, ne devait pas s'approcher.
Ah oui.
C'était extrêmement rigoureux. un peu difficile à vivre, je vous avouerai, parce qu'on est quand même dans une solitude forcée. Mais je l'ai fait avec cette envie de montrer, de prouver au monde que c'est possible. On sait que le festival de Salzbourg s'est passé, c'est bien passé, il n'y a eu aucun cluster. Voilà, c'est ça le message qu'il faut envoyer aujourd'hui, c'est que malgré tout, il faut rendre les choses possibles, il faut que le public se sente en sécurité. C'est très important ce protocole sanitaire, même s'il est très contraignant pour les salles, parce qu'on a besoin du public, on a besoin de vous.
Mais nous, on a besoin de vous, les chanteurs, les artistes, les musiciens, vous nous avez tellement manqué. Vous redonnerez La Reine de la Nuit, Sabine Devielle, à l'Opéra de Paris au mois de janvier, c'est ça ?
Oui, dans la production merveilleuse de Robert Carsen,
que vous avez souvent chanté. Pas de changement pour l'instant en perspective de mise en scène.
Je ne suis pas encore au courant, mais je vous en dirai plus dans quelques semaines.
Et puis il y aura les Contes d'Hoffmann au printemps également, et d'autres productions à l'étranger, sachant que c'est difficile de se projeter sur du long terme en ce moment.
Oui, je vous avoue que moi je fais partie des artistes qui ont la chance d'avoir une visibilité très très lointaine sur leur calendrier. Aujourd'hui, tout est incertain. On est voué à toutes les annulations, donc on navigue à vue et puis on y va à tâtons avec les programmateurs qui sont la plupart du temps de très bonne volonté et qui font tout pour que les choses aient lieu dans les meilleures conditions. Oui, évidemment, j'ai plein de merveilleux projets dans les années à venir. Je suis très confiante, mais on navigue tous à vue.
Voilà, puis on espère qu'on se sortira au plus vite de cette crise. Merci beaucoup Sabine Devielle. Je rappelle la publication de cet album qui est une vraie merveille, Chanson d'amour, qui tourne déjà depuis plusieurs jours régulièrement sur notre antenne, un album de mélodie française que vous avez enregistré avec Alexandre Tarot. Merci beaucoup.
Merci Laure Maison.
Les chemins qui vont à la mer ont gardé de notre passage des fleurs effeuillées et les cons sous leurs arbres de notre ride claire. Hélas, les jours de bonheur, radieuses joies envolées, je vais sans retrouver trace dans mon cœur. Chemin du désespoir.
Les chemins de l'amour de Francis Poulenc, un nouvel extrait de cet album Chansons d'amour de Sabine Devielle et Alexandre Tarot, album qui vient de paraître chez Erato. Sabine Devielle et Alexandre Tarot chanteront donc ces mélodies en concert le 25 septembre à Toulouse, le 28 septembre à Paris au Théâtre des Champs-Élysées, puis le 23 novembre à Bordeaux et le 29 novembre à l'Opéra de Lyon. Des moments qui s'annoncent aussi intimes que magiques.
Nouvelle génération de Thierry Lhériteau avec Le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors on s'intéresse ce soir à une jeune chef dont on parle beaucoup depuis vendredi dernier.
Et oui, la maestra Rebecca Tong. À 35 ans, cette jeune chef d'orchestre vient de remporter à Paris la toute première édition d'un concours de direction pas tout à fait comme les autres puisqu'il était exclusivement réservé aux femmes. Elle s'est distinguée lors de la finale vendredi dernier donc, entre autres grâce à une interprétation toute en énergie, en joie de vivre communicative et en plénitude sonore du dernier mouvement de l'héroïque de Beethoven. Sa symphonie numéro 3, il faut dire qu'elle était aux prises avec deux concurrentes sérieuses, Stéphanie Childress, d'un côté, franco-britannique, à la personnalité artistique déjà bien affirmée, âgée de tout juste 21 ans, c'était la cadette du concours, et Lina González-Granados, 34 ans, colombienne, de nom qu'il faudra aussi retenir, donc, car il y a fort à parier que l'on entende parler d'elle dans les saisons à venir.
Trois finalistes sur plus de 200 candidates.
Oui, 220, très exactement. Alors, lorsque la chef française Claire Gibault s'est lancée dans l'aventure du concours, elle ne s'attendait pas à recevoir autant de réponses. Alors, il est vrai que le prestige de la Philharmonie de Paris, où l'événement devait avoir lieu, représentait un attrait non négligeable, mais c'est surtout le caractère volontairement engagé de l'événement qui a séduit les candidates. Un événement dont l'objectif, rappelons-le, n'est pas de ghettoiser davantage les femmes chefs d'orchestre, mais bien de leur offrir, le temps d'une ou deux éditions, un coup de projecteur dont elles manquent encore cruellement. D'ailleurs, ce qui nous a tout de suite frappé chez les 12 candidates retenues pour les éliminatoires, c'est la richesse et la diversité de leur parcours. Certaines ne sont venues à la direction que très tard, après une première carrière instrumentale, alors que d'autres sont déjà, dans leur pays d'origine, des figures assez remarquées du monde orchestral.
Et c'est le cas notamment de Rebecca Tong.
Et oui, à Jakarta, cette jeune indonésienne a fondé il y a 10 ans déjà, rendez-vous compte, un orchestre de jeunes, le Jakarta Young Christian Orchestra. Il faut dire que pour elle, la musique est tout sauf un plaisir solitaire, c'est une question vitale de partage. Elle est née de parents mélomanes et musiciens. Elle a commencé par le violon, mais elle l'avoue, travailler son instrument seule dans sa chambre 5 heures d'affilée, eh ben, ce n'était pas son truc, elle avait besoin de travailler avec d'autres, avec beaucoup d'autres musiciens, dit-elle, de se sentir au cœur d'une communauté, une soif de l'autre qui était déjà à l'œuvre lorsqu'elle décide, après l'adolescence, de partir aux États-Unis pour y poursuivre ses études de violon dans le Michigan. C'est vraiment là-bas qu'elle attrape le virus de l'orchestre après un master de direction au conservatoire de Cincinnati, cap sur l'Angleterre, où elle se perfectionne au Royal Northern College of Music à Manchester, avant de briller comme chef invité de Tiendon au pupitre de la BBC Philharmonic et du Royal Liverpool Philharmonic. Et c'est pour servir cette communauté dont elle parlait tout à l'heure qu'elle dit avoir embrassé le métier de chef. Le plus gros job, affirme-t-elle, c'est de partager la joie de la musique aux musiciens pour que la partage au plus grand nombre. Pour cela, on se doit d'être le plus honnête possible, pas transparent mais perméable, pour communiquer tout ce qu'on peut émotionnellement et physiquement du compositeur vers la salle à travers les musiciens. Une honnêteté que l'on ressent dans cette interprétation du Divertimento pour cordes et orchestre de Bartok, dont on va écouter un extrait.
Thank you.
Voilà, c'était vendredi dernier lors de la finale du concours La Maestra, un petit extrait du Divertimento de Bartok, dirigé par Rebecca Tong, à la tête du Paris Mozart Orchestra. Rebecca Tong qui a donc remporté ce tout premier concours La Maestra. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de cette jeune chef indonésienne dont on va suivre le parcours. À la semaine prochaine. Demain, nous serons en compagnie d'un chef, lui, bien connu, dont on suit le parcours depuis des années. C'est François-Xavier Roth qui sera notre invité. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.